Bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à l'heure juste sur les ondes du 97.3. Mon nom est Simon Dominé, directeur de l'information à CAGA FM, et je suis heureux de vous retrouver en ce mercredi 11 mars 2026. Aujourd'hui, mon collègue Alexis Goyer, journaliste à la salle des nouvelles de CAGA FM, se penche sur le programme fédéral d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut. Il fait couler beaucoup d'encre dans la vallée de la Gatineau. L'ensemble des municipalités de la MRC de la vallée de la Gatineau a d'ailleurs demandé tout récemment au gouvernement du Québec de retirer son appui à ce programme. Ce dernier permet aux particuliers de recevoir une compensation financière s'ils se départissent volontairement de leurs armes prohibées d'ici le 31 mars prochain. Une période d'amnistie a été fixée jusqu'au 30 octobre 2026, après quoi les détenteurs d'armes prohibées s'exposent à des poursuites pénales pour possession illégale d'une arme à feu prohibée. Alexis discute de tout ça en seconde partie d'émission avec la députée fédérale de Pontiac-Kitigan-Zibi, Sophie Châtel. Mais on débute avec l'annonce par Québec de la création de deux programmes en enseignement qui s'adressent au personnel déjà en place dans le réseau. La journaliste Annie Martin se penche sur la question avec le président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières, Daniel Boisjoli. Bonne émission. Au 97.3, on vous donne le
juste. C-H-G-A. Je suis avec Daniel Boisjoli, président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières. Monsieur Boisjoli, merci d'être avec nous.
Ça fait plaisir.
Il sera question d'une annonce importante en éducation, la création de nouveaux baccalauréats à distance pour permettre aux enseignants non qualifiés d'obtenir leur brevet via l'Université TELUC. Tout d'abord, M. Boisjoli, à quoi ressemble la pénurie d'enseignants dans nos écoles de la vallée de la Gatineau en ce moment? Est-ce qu'il y a des matières plus touchées que d'autres?
Bien, je vous dirais qu'on est en discussion constante là, avec cette problématique-là que vit plus particulièrement là, notre centre de service scolaire ici là, au bois d'Outaouais. Je sais que le centre de service scolaire déploie des efforts pour accompagner les personnes qui ne sont pas qualifiées, là, qui n'ont pas leur brevet en enseignement. De notre côté, comme Fédération des syndicats d'enseignement, on a aussi négocié avec le gouvernement. Là, on a eu une entente dernièrement en ce qui a trait une entente sur la rareté. C'est un projet pour venir atténuer là, la pénurie puis venir soutenir les centres de services scolaires sur le plan financier pour qu'à leur tour, ils puissent soutenir les enseignants non qualifiés. Puis ça, c'est une des façons de faire, mais il y a assurément une multitude d'actions là, qui visent à soutenir les étudiants dans leur parcours, mais aussi pour l'intégration, puis les soutenir en cours de carrière, mm-hmm. puis motiver les personnes à rester en poste, parce que vous savez que le taux de décrochage des profs est assez élevé, merci.
Oui, tout à fait. Donc, en soi, c'est une bonne nouvelle là, pour de cette annonce-là là, du programme à distance. Et aussi, il y a même un micro-programme dès 2027 là, qui sera intégré.
Oui, c'est sûr que ça demeure... c'est à distance. Ça va être applicable, là, ça va être disponible en 2029 et le micro-programme sera disponible en 2027. Mm-hmm. Je vous dirais que d'ici là, on peut quand même s'inquiéter pour la qualité des services éducatifs. Là. Puis nous, comme fédération, on a proposé des solutions, notamment là, en suspendant les objectifs fixés par le ministère en ce qui a trait à la maternelle 4 ans. Puis on peut mettre un frein là-dessus puis arrêter d'en ouvrir davantage. Ça a été demandé là, par notre fédération. Puis il y a différentes actions qu'on doit poursuivre. Il faut soutenir les études en enseignement, en maintenant les bourses là, pour Perspective Québec. Puis peut-être d'instaurer une rémunération pour les stages en enseignement. Mm-hmm. Puis là, ce qui nous inquiète aussi, bien, c'est la diminution des exigences pour l'atteinte du brevet en enseignement. On ne voudrait pas que la formation initiale, le bac de 4 ans, soit mis de côté au détriment de la qualité de la formation initiale du personnel enseignant. Puis ça, c'est extrêmement important. C'est important d'abord pour les élèves d'avoir un service de qualité là, qui est très favorable pour le futur. Alors, oui, ça prend ça, puis ça prend des mesures pour faciliter l'entrée dans la carrière enseignante. Là.
Donc, il y a des mesures qui sont prises sur le terrain, justement, pour contrer cette problématique-là. Dans les régions, plus particulièrement, ici, on parle de la vallée de la Gatineau, donc notre région, il y a plusieurs enseignants là, qui vivent des situations qui ne sont pas nécessairement, dans le fond, favorables. Et il y a même ici, il y a des zones où l'accès Internet, ce n'est pas toujours optimal. Donc, pour ce baccalauréat-là, à distance, est-ce que ça risquerait pas de freiner l'accès à cette nouvelle formation-là dans les régions en particulier?
J'ose espérer que ça sera un préalable, puis les centres de services scolaires doivent se pencher sur l'offre de services de l'accès à Internet.
Là, ouais.
Je sais qu'ils sont capables d'offrir des locaux pour que les gens aient, puis ils l'ont fait, puis ils font déjà là, d'offrir des locaux, mais en même temps, si on veut favoriser le travail et la famille parce que vous savez que pour une personne qui est non légalement qualifiée, en plus de devoir enseigner la plupart du temps à temps plein, suivre des cours, s'occuper de la famille, ben il faut que ça soit des conditions qui sont favorables pour ne pas qu'ils décrochent en chemin. Puis on sait que l'enseignement à distance, est-ce que la motivation, elle sera toujours présente? C'est pas évident, là. Vous connaissez les gens en télétravail et ça prend de l'interaction, ça prend... il faut rencontrer des gens, là. C'est tout ça dans notre côté. Il faut échanger aussi sur la pédagogie, pas seulement en lire, là. Alors, c'est important. Puis toute la mise en place de ce qui vient favoriser la concertation entre les étudiants en enseignement, ben c'est extrêmement important. Puis quand on parle de concertation, les centres de services scolaires doivent aussi se concerter avec les syndicats en ce qui a trait les profs qui décrochent. Le gouvernement a mis en place une obligation pour les centres de services scolaires d'organiser des entrevues de départ avec le personnel qui quitte la profession dans le but de changer les pratiques puis de favoriser la rétention. Parce qu'on aura beau tout mettre ça en place. Moi, je vois ce qui se passe au quotidien. Je regarde les conditions de travail.
Oui.
Je regarde la composition de la tâche. Je regarde la composition de la classe. Je regarde la surcharge de la tâche. Je quand même qu'on ferait des pieds et des mains pour les attirer. Encore faut-il avoir des conditions qui sont acceptables, qui permettent à l'enseignant de pouvoir faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'enseigner, puis qu'on reconnaisse l'expertise pédagogique de l'enseignant, de son expertise, mais aussi de son autonomie. Parce que ce que je dis souvent, c'est que maintenant, à peu près tout le monde sait quoi faire dans une classe, sauf le prof. T'sais, il est temps qu'on reconnaisse l'autonomie du personnel enseignant, mais dans un certain point de vue, c'est important que le personnel, pour qu'on puisse le reconnaître, cette autonomie-là, développe l'expertise, et pour ça, ben, ça prend effectivement une formation initiale qui a des exigences qui leur permettent de pouvoir invoquer cette autonomie professionnelle-là.
On sait très bien en ce moment que les enseignants vivent plusieurs enjeux au quotidien. Les enseignants concernés, ils devront continuer, comme vous aviez dit précédemment, à enseigner à temps plein tout en suivant une formation universitaire. Est-ce qu'on est en train de les condamner à une certaine surcharge? Est-ce qu'il y aura des mesures prises du genre, est-ce qu'il y a une réduction de tâches, mentorat, libération de tâches?
Effectivement, puis ça, c'est déjà en place. Puis, comme je vous disais tantôt, là, ce qu'on a négocié avec le gouvernement pour avoir le 11 millions, c'est sûr que pour un centre de service scolaire, c'est pas beaucoup d'argent, mais le centre de service scolaire ici à Oba-l'Outaouais, je sais qu'ils ont déjà mis en place des programmes. Ils vont, je crois, payer une partie des cours universitaires, mais aussi permettre aux enseignants qui suivent la formation initiale d'être libérés sur du temps de tâche pour pouvoir faire leurs cours. Puis ça, c'est, je pense que c'est un moyen qui est gagnant parce qu'il faut trouver une façon de valoriser l'enseignement, mais aussi l'accès au brevet en enseignement. Puis il faut être conscient, là, il n'y a pas de baguette magique là, pour résoudre l'immense problème de la pénurie du personnel. Et ça va prendre aussi du courage politique puis des investissements importants, là, malgré les fameuses contraintes financières actuelles. Bref, il faut faire de l'éducation une priorité, puis tant que ça ne sera pas pour la majorité des gens, puis les gens qui sont en politique, ben écoutez, on va vivre ce qu'on vit là, puis encore un bon bout de temps, là. Ça devrait même pas faire partie Vous savez, on dépend des politiciens qui sont en place. On peut pas jouer là-dessus. L'éducation, ça doit être à part. Ça doit pas être gouverné. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut pas être au gré du vent puis des humeurs des partis politiques là pour l'éducation. Ça doit pas marcher comme ça. Ça prend une vision à long terme. Puis c'est pour ça qu'on demande aussi des états généraux sur l'éducation.
Monsieur Daniel Boisjoli, président du syndicat du personnel de l'enseignement des Hautes-Rivières, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur l'impact de cette annonce dans la vallée de la Gatineau.
Je vous remercie beaucoup.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Restez avec nous sur les ondes du 97.3. On fait une courte pause publicitaire et l'heure juste reprend tout de suite après. Le journaliste Alexis Goyer questionne la députée fédérale Sophie Châtel au sujet du controversé programme d'indemnisation pour les armes à feu de style armes d'assaut qui a fait l'unanimité contre lui chez les maires de la Haute-Gatineau.
Au 97.3, on vous donne